20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il vient d'interpeller le gouvernement italien en appelant à faire vacciner les musiciens afin de faciliter la réouverture des salles et a su, en attendant, maintenir une saison musicale en ligne, misant sur la créativité et sur l'engagement des artistes, renouvelant sa confiance à Riccardo Chailly en tant que directeur musical. Dominique Meyer, le surintendant de la Scala de Milan, sera notre invité ce soir. Il nous éclairera donc sur les nouveaux enjeux de l'une des plus prestigieuses institutions lyriques au monde, alors que l'Italie vient d'entamer un nouveau confinement. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale, et pour commencer, une triste nouvelle. Nous avons appris cet après-midi la disparition de James Levine à l'âge de 77 ans. James Levine qui a régné pendant 40 ans à la tête du Metropolitan Opera de New York, avant d'en être licencié en 2016 suite à des accusations de harcèlement sexuel. Un scandale qui a mis un terme à sa carrière, longue et intense carrière internationale, durant laquelle le chef américain a été associé à des phalanges aussi prestigieuses que l'Orchestre symphonique de Boston, les philharmoniques de Munich, de Berlin et de Vienne, ou encore l'Orchestre symphonique de Chicago. Il fut en outre le directeur pendant 20 ans du festival de Ravinia. Philippe Gau vous dresse le portrait de James Levine sur le site de Radio Classique et toute l'antenne lui rendra hommage dès demain. Et avant de gagner Milan, arrêtons-nous à Berlin où, du 19 mars au 4 avril, une série de spectacles culturels s'ouvrira au public dans le cadre d'un projet pilote visant à prouver qu'avec un protocole sanitaire très strict, la réouverture des salles est possible. 8 institutions berlinoises se sont associées à cette initiative, parmi lesquelles les Berliner Philharmoniker, qui se produiront en concert avec Kirill Petrenko, le Staatsoper Unter den Linden, où Daniel Barenboim dirigera les Noces de Figaro, ou encore le Deutsche Oper, qui proposera une représentation de Francesca da Rimini, sous la direction de Carlo Rizzi. Les places pour ces concerts se sont vendues en à peine quelques heures. C'est à lire sur le site de Radio Classique, un article signé Philippe Gau. L'Orchestre de Chambre de Paris reprend ses déjeuners-concerts au Théâtre du Châtelet. C'est Alphonse Semain qui dirigera ses musiciens demain à 12h30 dans un programme de musique française associant une version orchestrale du Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy au Tombeau de Couperin de Ravel. Un concert qui sera disponible en ligne sur les pages Facebook du Théâtre du Châtelet et de l'Orchestre de Chambre de Paris.
Laure Maison sur Radio Classique.
Depuis son arrivée à la tête de la Scala de Milan au printemps dernier, Dominique Meyer a dû, comme tous les directeurs de théâtre de la planète, faire face à l'une des plus graves crises du monde musical, gérer ainsi une institution qui ne peut plus accueillir de public. Et pourtant, la musique n'a cessé de résonner au sein de la prestigieuse Maison Lombarde et les plus grands chanteurs de la scène internationale continuent à y faire escale. L'aggravation de la situation sanitaire en Italie et l'instauration d'un nouveau confinement ne devraient pas mettre un frein à ces activités, comme nous l'a confié Dominique Meyer, qui est donc notre invité ce soir et avec qui nous allons évoquer cette nouvelle vie de la Scala de Milan.
Vous savez, il y a un système de couleurs. Donc pendant un petit moment, on était jaune. Ça voulait dire que les magasins étaient ouverts. Puis on était orange, il n'y a eu pas beaucoup de différence. Et puis maintenant, on est rouge. La seule chose qui diffère, c'est que à part les magasins d'alimentation, les ventes à l'emporter pour les bars et les restaurants, tout est fermé. Mais je sais pas, les Italiens ont quand même un sens, une capacité à vivre bien qui fait qu'ils se lamentent pas trop. Oui. Ils continuent de vivre dans le théâtre. Depuis que nous avons été contraints de refermer au mois d'octobre, nous faisons des spectacles pour la télévision, pour Internet. Donc chaque mois, un opéra, un ballet, un ou deux concerts, un ou deux récitals. C'est nécessaire de continuer à être actif. On ne peut pas laisser un ballet pendant un an sans rien faire. On ne peut pas laisser un orchestre sans rien faire. On ne peut pas laisser un chœur. On ne peut pas laisser des travailleurs qui ont l'habitude de travailler sur le plateau sans rien faire. C'est une question d'hygiène. Il faut entretenir le moral des troupes. Et finalement, quand on rentre dans le théâtre, ici, on a l'impression que, naturellement, c'est un peu une illusion, mais on a l'impression que tout est normal. D'ailleurs, il y a cet après-midi l'enregistrement du nouveau programme Corbeil, Les Sept Péchés Capitaux et Le Petit Magoni. À part le fait que nous avons réorganisé l'espace pour respecter les normes de distance entre les musiciens, tout est normal.
Alors l'Italie, comme la France, compte sur la vaccination pour s'en sortir au plus vite. Vous avez appelé récemment Dominique Meyer à faire vacciner en priorité les artistes, en tout cas tous ceux qui ne peuvent pas porter de masque, comme les chanteurs ou les danseurs, et cela suite à une suspicion de cluster qui était due en fait à des erreurs de test. Tester, c'est ce que vous faites depuis des mois déjà. Tester n'est pas la solution finalement.
Si, tester est toujours la solution, mais ça nous rend fragile car vous voyez, une erreur du diagnostic, 50 faux positifs, ça a mis la panique. Donc si au bout de 3 semaines de répétition, d'un mois de répétition, vous êtes obligé de tout annuler parce qu'il y a une suspicion de cluster, ça nous rend extrêmement fragile. Or, ici en Italie, pour réouvrir tous les théâtres à l'activité, tous les opéras sans qu'il y ait ce genre de problème, il suffit de vacciner, je sais pas, 3 ou 4 000 personnes. C'est pas quand même le bout du monde. Certains ont pris ça pour une provocation, parce que naturellement, il y a des questions de jalousie. Et je leur ai dit, moi, je ne veux pas être vacciné. Ça viendra quand ça viendra. Mais les personnes qui sont le plus exposées, naturellement, l'activité de chœur, c'est une activité potentiellement dangereuse. Naturellement, l'activité de musicien d'orchestre, qui joue des instruments avant, c'est potentiellement dangereux. Naturellement, l'activité de danseur ne peut pas être faite sans souffler fort, sans se toucher, etc., etc. Donc, paraît normal qu'on prenne soin de ces personnes. Il y a une forte pression pour qu'on continue à faire des spectacles, mais d'un autre côté, on ne peut pas mettre en place les conditions minimales de sécurité pour ces personnes.
Et avez-vous reçu une réponse de la part d'autorité, de la part du gouvernement, suite à votre appel ?
Aucune réponse.
Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel. Aber manches hab ich doch verahnt. Schließlich bin ich ja auch ein Mensch. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wer ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Freilich geht man mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt und umarmt sie dort in Scharen. Aber das Gefühl wird erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig kann. Schließlich geht ja jeder Vorrat zu Ende. Der Schnee vom vergangenen Jahr. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Und auch wenn man gut das Handeln lernte auf der Liebesmess, Lust in Kleingeld zu verwandeln, wird doch niemals leicht, nun es wird erreicht. Doch man wird auch älter unterdessen. Schließlich bleibt man ja nicht immer 17. Gott sei Dank geht alles schnell vorbei.
ist der Schnee vom vergangenen Jahr. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?
Nana's Lied de Kurt Weill, chanté par Kate Lindsay avec le pianiste Baptiste Trottignon. Un extrait d'un récital donné à la Scala de Milan le 14 mars dernier, un récital disponible en ligne sur la chaîne YouTube de l'Opéra. Alors, Kate Lindsay participe à la toute nouvelle production lyrique de la Scala, un diptyque associant deux ouvrages de Kurt Weill, Les Sept Péchés Capitaux et le Mahagoni Songspiel, mis en scène par Irina Brook et dirigé par Ricardo Chailly. Un spectacle à découvrir en ligne le 18 mars, conçu spécialement pour cette période si fragile de la vie musicale, comme nous le raconte Dominique Meyer.
La difficulté naturellement de continuer une activité sans mettre les finances du théâtre en péril, et d'ailleurs nous avons réussi à équilibrer les comptes pour l'année 20, et nous avons présenté hier un budget en équilibre pour l'année 21, c'est un grand exploit je trouve, ça nécessite quand même qu'on fasse très attention aux dépenses, et donc on a pour ces spectacles que nous donnons en streaming pour la télévision, soit utilisé des productions déjà existantes, la dernière c'était Salomé qui est allée l'an passé jusqu'à une semaine de la fin des répétitions et que personne n'a vu, donc on l'a reprise, on avait déjà fait l'investissement. Et cette fois-ci, j'ai demandé à Irina Brook si elle se sentait la force de monter un spectacle sans aucun moyen. Et donc elle m'a dit, mais écoute, je rêve de ça, je vais venir, on va aller dans les réserves, on va aller dans les réserves de costumes, dans les réserves de décors et on va trouver tout ce qu'il faut pour faire un spectacle. La réflexion avec Ricardo Chailly, dont on a prolongé le contrat hier jusqu'en 2025, c'était de monter des pièces petites aussi, qui permettent d'éviter d'avoir trop de protagonistes, trop de musiciens d'orchestre rassemblés. Et on s'est dit, tiens, faisons un programme Weill, parce que ça se joue avec 35 musiciens l'une des pièces, avec 20 musiciens l'autre, donc ça c'est parfaitement possible. Et tout le théâtre s'est enflammé pour ce projet, qui est un très beau projet.
Donc ce sont de nouveaux défis pour les metteurs en scène, pour les artistes, particulièrement stimulants. En même temps, Dominique Meyer, cela pousse à une certaine créativité.
Oui, parce qu'on a l'habitude de se réfugier dans le gigantisme. Moi, je le déplore beaucoup. On fait des décors trop grands, on veut construire trop gros, on veut impressionner le bourgeois. En dépensant beaucoup d'argent sur le bâton, on peut faire des spectacles merveilleux, finalement, avec trois bouts de ficelle. Et d'ailleurs, le thème des sept péchés capitaux et de Mahagoni Songspiel passe parfaitement en ce moment.
Effectivement. Alors, vous citiez Dominique Meyer, le prolongement du contrat de Ricardo Chailly en tant que directeur musical de la Scala, prolongement jusqu'en 2025. Qu'est-ce qui a guidé ce choix? C'était une évidence?
Depuis un an, on a pris l'habitude de se connaître. Il a été très important cette année, lorsque nous avons réouvert le théâtre en septembre, avec le Requiem de Verdi donné ici à la cathédrale, mais aussi dans les cathédrales des deux villes qui ont été des villes martyrs, Brescia et Bergamo. Et puis ensuite, quand nous avons réouvert le théâtre ici au mois de septembre, avec la 9e de Beethoven, puis plus tard Aïda, en version de concert. Et puis, le 7 décembre, on a été obligé 15 jours avant le 7, vous savez que c'est très important, c'est l'ouverture de la saison, c'est un événement considérable ici en Italie. Nous avons été obligés d'annuler la Lucia di Lammermoor, qui était déjà en répétition depuis 3 semaines. Et je lui ai dit, on va faire quelque chose de parfaitement différent. Nous allons faire un concert filmé, mais qui était en fait un film, avec 24 ou 25 chanteurs parmi les plus importants du monde, et un metteur en scène, David Livermore. C'est un objet un peu particulier qui a eu beaucoup, beaucoup d'écho, et il s'y est attelé tout de suite. Il a accepté ensuite de reprendre au vol la Salomé que devait diriger Zubin Mehta, qui a été malade pendant les répétitions. Il a accepté ensuite de faire ce projet Weill, qui est pas dans ses habitudes, en fait, ni dans les habitudes de la Scala. Et donc, je trouve qu'il a en plus accepté aussi de collaborer avec des chanteurs qu'il ne connaissait pas, et avec des metteurs en scène avec lesquels il n'avait jamais travaillé, comme Irina Brook. C'est un très, très bon partenaire, et nous avons déjà programmé toutes les ouvertures de saison jusqu'à la saison 24-25, qui est la dernière de mon contrat et donc aussi la dernière de son contrat. Et là, je suis très content d'avoir un tel partenaire pour aller en avant.
Quelques notes de Respighi, un petit extrait des danses et airs antiques issu du tout récent enregistrement de Ricardo Chailly avec ses musiciens de l'orchestre de La Scala. Ricardo Chailly prolongé donc jusqu'en 2025 à la tête de l'institution lombarde où il dirige la nouvelle production autour de deux ouvrages de Kurt Weill. Production à découvrir en ligne sur le site de La Scala le 18 mars, donc demain. Alors, comment maintenir des productions et des concerts pour le streaming ou la télévision et faire venir les plus grands chanteurs malgré une situation économique si tendue? On écoute Dominique Meyer.
On a ici naturellement dû renoncer à un tiers du budget qui sont les recettes de billetterie, quand même considérable, c'est 29 millions. Et donc, nous avons beaucoup travaillé avec nos partenaires privés. Nous en avons deux nouveaux depuis la semaine dernière. Nous avons pour le budget 2021, le plus gros montant jamais enregistré de recettes privées. Bien un nouveau partenaire qui va nous donner 6 millions en 3 ans et un autre partenaire qu'on annoncera dans quelques jours qui donne un peu moins mais qui est extrêmement prestigieux et pour la ville de Milan et pour la Scala. Puis nous avons un très bon accord avec le personnel. Nous mettons régulièrement une partie du personnel en chômage partiel avec leur accord. On a passer un accord qui permet aussi d'éviter des augmentations salariales cette année et l'année prochaine. Nous avons fait un plan d'économie assez draconien et du coup, nous sommes arrivés à équilibrer les comptes de l'année de l'année 2020, et je pense que le budget que nous avons présenté hier pour l'année 2021, qui est équilibré, ira jusqu'au bout et en équilibre. Enfin, on fait très attention à tout ça. Il ne faudrait pas que les circonstances du Covid mettent en difficulté la survie du théâtre, et je pense que tous les collaborateurs du théâtre sont extrêmement, extrêmement conscients de ça, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. On fait attention, on ne dépense pas trop, on essaie quand même d'avoir des projets brillants. Depuis quelques mois, tous les grands chanteurs sont venus. La semaine dernière, c'était Ludovic Tézier qui était là, Jonas Kaufmann était là un peu plus tôt, Flores est venu, Benjamin Bernheim, Nanette Trepko qui était là, qui reviendra. Enfin bref, tous les grands chanteurs sont présents, ils ont décidé de nous donner la main. Et on fera attention ensemble, essayons de protéger le théâtre que l'on aime. Et puis nous avons beaucoup réfléchi pendant les vacances de Noël, en fait. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour essayer d'éviter que la mélancolie s'installe. Voilà, parce que naturellement, après un beau concert, quand la dernière note d'un beau concert dirigé par quelqu'un comme Zubin Mehta ou Myung-Moo Chung s'éteint, il n'y a pas d'applaudissement. Donc il y a quand même un risque de tristesse. Donc je me suis dit, voilà, on va faire un triple plan. On va faire un plan électronique de modernisation, un plan écologique et aussi un plan social. Nous allons installer un système de streaming permanent dans le théâtre, comme je l'ai fait à Vienne. Nous allons installer un système de tablettes sur les sièges avec des surtitres en 8 langues. Nous allons créer un système de communication interne extrêmement moderne. Nous allons installer des tablettes sur la scène, etc., etc. Refaire complètement toute l'informatique de gestion du théâtre. Je voudrais que, avec les jeunes, il y a énormément de jeunes dans l'équipe de la Scala, on construise le théâtre de demain. Et puis on a un plan écologique qui est très important. J'ai découvert qu'on utilisait 10 tonnes de papier chaque année. Donc c'est à l'image d'une organisation qui est peut-être un peu ancienne. Donc on s'est attaqué à ça, la réduction du papier. On est en train de faire un audit énergétique complet. On est en train de faire tout un plan pour le changement de la lumière en utilisant des LED. On est en train de faire un plan aussi sur les déchets. Et puis, à partir de cet automne, nous espérons que la programmation recommencera de manière plus normale avec du public dans les salles. Et naturellement, nous n'aurons pas les touristes, puisque ici, normalement, il y a un tiers de touristes dans la salle. Je ne pense pas que le tourisme recommence dès cet automne, donc nous aurons des sièges libres. Et ces sièges, je voudrais les utiliser pour que les familles puissent amener leurs enfants. À prix réduit, le siège de l'enfant qu'on amène avec soi, son enfant ou son petit-fils ou sa petite-fille, coûtera même en première catégorie 15 €. Voilà, on a du pain sur la planche et toute mon équipe s'est attaquée à tout ça avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et hier, le conseil d'administration aussi a ajouté sa touche.
Voilà, donc des projets, des perspectives sur du long terme. Vous vous projetez, Dominique Meyer, et on s'en réjouit. On sait que la Scala est l'une des grandes fiertés des Italiens. En cette période si douloureuse, vous avez ressenti de la part des Italiens ce profond attachement à cette institution?
Ah oui, c'est très fort. Je le savais, mais le vivre au quotidien, c'est très impressionnant. D'ailleurs, lorsque je suis arrivé ici, on m'expliquait que la Scala était la, en termes de notoriété, la deuxième marque italienne. La première, c'est Ferrari. La Scala est aimée, elle est jalousée, c'est un objet public. Les Milanais en sont extrêmement fiers. La Scala, c'est à la fois un grand théâtre international et aussi un théâtre de quartier. Et c'est très impressionnant. Le revers de la médaille, c'est que je trouve on est un peu trop autoréférentiel. Les gens sont tellement attachés à leur théâtre qu'ils oublient un peu de les réalités d'autres grands théâtres internationaux. Ce que j'essaie de faire quand même, c'est de, sans abîmer la fierté qu'on a de travailler à la Scala, de faire en sorte que finalement on ne se voit pas trop beau et qu'on essaie quand même de comprendre que les gens qui font du bon travail à Londres, à New York, à Vienne, à Paris, à Munich ou à Berlin.
Voilà, puis au-delà des Italiens, vous touchez en ce moment le public international via ces captations en streaming. Les touristes sont là quelque part derrière leurs écrans pour profiter de ces spectacles.
Oui, en effet, je pense que c'est un enjeu très important de toutes les grandes salles de spectacle, c'est de garder un lien intime avec le public, que ce soit le public local ou le public international.
Voilà, donc le prochain rendez-vous en streaming avec La Scala, ce sera jeudi. Cette production autour de Kurt Weill avec Les Sept Péchés Capitaux et le Mahagoni Zongspiel, dirigé par Ricardo Chailly et mise en scène par Irina Brook. Et puis le 24 mars, un récital de Maria Agresta et Francesco Melli, dirigé par Nicola Luisotti. Et le 28 mars, puisque vous êtes très actif à La Scala, ballet en hommage à Nureyev. Et j'imagine que les mois d'avril et de mai sont déjà riches sur le plan de la programmation, Dominique Meyer.
Oui, il y aura un très beau concert, je pense, dirigé par Zubin Mehta, qui a dû abandonner Salomé il y a quelques semaines et à qui j'ai proposé tout de suite, puisqu'on a un peu de temps, on peut improviser, c'est ça l'avantage dans notre monde qui est hyper programmé, on peut un peu improviser ces temps-ci, donc je lui ai proposé de faire un concert. Il va jouer la 9e symphonie de Bruckner et la 3e symphonie de Schubert, donc on se réjouit d'avance.
Voilà, ben nous aussi, puisqu'on peut en profiter grâce au streaming. Merci beaucoup Dominique Meyer, merci infiniment.
À bientôt.
À bientôt.
Thank you.
La musique pleine de vie, pleine d'espoir de Schubert, le final de la troisième symphonie par Zubin Mehta, à la tête ici de l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Zubin Mehta qui viendra diriger Schubert et Bruckner le 4 avril à la Scala de Milan. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la soprano Jody DeVos qui viendra nous présenter un magnifique album de mélodies anglaises. Très belle soirée à tous. Je vous laisse, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel.